France Info.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission de débat et de réflexion sur France Info, à la radio et à la télé sur le canal 27. Au sommaire ce soir, sans surprise, une journée marquée par la présence de gilets jaunes dans de nombreuses villes. Aujourd'hui, une présence en attendant peut-être la prise de parole du chef de l'État annoncée pour jeudi prochain, avec une menace de violence qui pesait depuis plusieurs jours. Présence des Black Blocs, nous faisons le point dans un instant avec évidemment nos invités qui reviennent également sur l'actualité de cette soirée, le concert pour Notre-Dame de Paris aux Invalides. Un concert pour quoi faire, au juste, des dons qui avoisinent déjà le milliard d'euros. Et puis, vous êtes peut-être en week-end dans votre famille, vous avez pris la route, vous avez remarqué que vous n'étiez pas seul. Eh bien, les chiffres de la sécurité routière ont été publiés hier. Ils sont très mauvais. Que faut-il faire? Plus de radars, de limitation de vitesse, qu'en pensent nos invités? Bienvenue à Nora Amadi, journaliste et présentatrice de l'émission Vox Pop sur Arte, spécialiste des questions européennes. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Oui. Yasmina Jaffar, journaliste et fondatrice du site laruchemedia.com. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez également reçu le prix du féminisme populaire pour les femmes dans les médias. Félicitations. Étienne oui. Girard, journaliste politique à Marianne. Bonsoir.
Bonsoir Noé.
Et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'ENS, chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Les informés, c'est parti. On commence donc par cette journée de mobilisation un peu partout et marquée par les manifestations de gilets jaunes. Il fallait donc occuper le terrain avant les annonces de Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit s'exprimer jeudi avec une conférence de presse. On écoute quelques gilets jaunes aujourd'hui.
On attend des réponses fortes du gouvernement qui sont toujours pas là. Et il y a des urgences démocratiques, fiscales, sociales et environnementales. Et on n'a toujours pas de réponse.
Comme vous pouvez voir, je n'en ai pas loupé une jusqu'à présent. Et je suis décidé à être, s'il en reste deux, ce sera ma femme et moi.
Alors une journée marquée avec une mobilisation en baisse au niveau national, mais plus de monde à Paris. Quel est votre bilan de cette journée, Nora Amadi?
Ben, un bilan contrasté. On voit qu'en fait, depuis 2-3 semaines maintenant, la mobilisation en fait tend à augmenter. Il y avait eu donc un espèce de creux il y a quelques semaines en février, puis là ça repart. Et puis surtout, en fait, il faut le voir, les violences. On a commencé en fait à interdire certains secteurs pour les manifestations. Et finalement, maintenant, on se retrouve à République avec des affrontements encore une fois, un nombre d'interpellations qui est absolument énorme, des journalistes aussi qui ont été une nouvelle fois agressés. Moi, j'arrive pas à comprendre en fait comment le gouvernement peut laisser à ce point traîner la situation. L'acte 1 était le 17 novembre. On attend l'acte ultime le 1er mai où du coup on attend des black blocs venus de toute l'Europe. Et il faut peut-être s'attendre en fait à ce qui s'est passé il y a 2 ans. On se souvient en fait de ce qui s'est passé autour d'Austerlitz. Moi, je comprends pas en fait ce positionnement et comment est-ce qu'on peut en arriver à une situation aussi, de putréfaction.
Benjamin Morel, est-ce que vous tirez le même bilan? Vous ne comprenez pas.
Si vous voulez, il faut remettre cette manifestation de ce samedi dans son contexte. On avait une manifestation de gilets jaunes qui devait marquer l'après-annonce d'Emmanuel Macron. Oui. Pour une raison de conjoncture assez dramatique, Notre-Dame, ces annonces n'ont pas existé, même si elles ont fuité dans la presse. Et donc, on a une manifestation qui arrive un peu à contre-temps, avec tout de même toute une organisation qui s'était faite à la fois chez les gilets jaunes et chez les Black Blocs, pour faire monter des gens à Paris et pour avoir sur Paris un effet de masse. Seulement, comme les annonces ne sont pas là, certains ont probablement renoncé à venir, certains Black Blocs également ont peut-être renoncé à venir, et on arrive avec une manifestation un peu particulière qui est à la fois importante et très concentrée et qui, en même temps, n'est pas tout à fait celle qu'on attendait. Et donc, en effet, le vrai test du coup ne va pas être ce samedi,
le 1er mai. Il est reporté une nouvelle fois. Yasmina Jaffar, votre bilan?
Oui, tout à fait, d'autant que cette date d'aujourd'hui permettait de se dire que ça faisait 5 mois. C'était organisé aussi dans cette idée-là. Le 20, ça fait 5 mois. Donc c'est un anniversaire pas terrible. On n'a pas envie d'utiliser le mot fêter que j'ai entendu dans les médias aujourd'hui. On fête pas ça. Mais par contre, c'était une date symbolique pour les Gilets jaunes. En effet, il y avait les annonces qui devaient avoir lieu. Il y a peut-être aussi moins de bad blocs que prévu parce qu'on en attendait 1500.
1500 à 2000, oui.
vu que la mobilisation aujourd'hui est un peu moins forte, le climat, je pense, y est aussi pour beaucoup, les vacances scolaires aussi. Alors peut-être que, ne voulant pas se faire interpeller, s'il y a moins de monde, techniquement, stratégiquement, les Black Blocs ne vont peut-être pas se déplacer, d'autant plus pour rien. Attendons jeudi les annonces, et là peut-être que samedi prochain, il y aura un enjeu beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, et M. Castaner pourra redéployer cette même dramatisation pour la semaine prochaine.
Étienne Gérard.
Sur l'ensemble du territoire, la mobilisation est en repli.
Oui.
Donc on constate qu'il n'y a pas d'effet fin du grand débat sur la mobilisation des Gilets jaunes pour l'instant. C'était une des questions. Est-ce qu'à la fin du grand débat, quand Emmanuel Macron, alors il n'a pas annoncé ses mesures, mais ça a
fuité,
voilà. Alors, est-ce que ça allait susciter un retour massif des Gilets jaunes dans la rue? Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas non plus d'effet beau jour. Il a fait beau aujourd'hui. On n'a pas vu un afflux massif des Gilets jaunes dans les rues. Et à Paris...
Plus de monde à Paris que la semaine dernière.
Alors, la date avait été cochée par l'ensemble des groupes les plus radicaux depuis longtemps. Les échauffourées apparaissent a priori mesurées. Faut savoir que les Black Blocs, leur stratégie, c'est de taper quand le gouvernement et quand la police s'y attend le moins.
Et donc, ça veut dire qu'ils ne vont plus taper, puisque la police s'y attend, la loi anti-casseurs est passée.
Alors, ils peuvent taper à des week-ends où on ne les attend pas forcément. Très fort. Le contre-exemple absolu de ce que je viens de vous dire là, c'est le 1er mai, parce que le 1er mai, c'est la fête du travail et c'est aussi les un an de l'interpellation plus que musclée, illégale d'Alexandre Benalla. Donc on peut penser que les Black Blocs ont gardé des forces pour un prochain week-end inattendu et surtout pour le 1er mai.
Donc ce sera un week-end attendu.
Le 1er mai, pour le coup, ils seront attendus, mais ils ne pourront pas faire l'impasse sur cette date éminemment symbolique.
Les informés sur France Info continuent, mais tout de suite à 20h10, toute l'info avec vous, Jules Dekis.
Mobilisation en légère baisse ce samedi pour les manifestations de Gilets jaunes. Un peu moins de 28 000 personnes dans les rues d'après le ministère de l'Intérieur. 9 000 dans la capitale. Un cortège parisien émaillé de heurts et d'actes de vandalisme. Un randonneur à ski retrouvé sous une coulée de neige près de Samoans en Haute-Savoie. Les proches du quinquagénaire ont donné l'alerte ne le voyant pas revenir. La mesure doit protéger les consommateurs français autant que les agriculteurs soumis à des distorsions de concurrence. La France renouvelle son interdiction d'importer des cerises traitées au diméthoate. C'est un insecticide controversé que l'Autriche, la Croatie, la Turquie ou l'Argentine continuent à utiliser. Un casque bleu des Nations Unies est mort au Mali ce matin. 4 autres sont blessés. Une mine a explosé au passage de leur convoi dans le centre du pays. C'est la série d'attaques la plus sanglante en Syrie depuis la chute de Daesh il y a un mois environ. 60 soldats syriens tués en 48 heures dans des attentats djihadistes. Le président Bachar al-Assad vient de recevoir le vice-premier ministre russe à Damas. Des discussions sur l'avenir du régime mises à mal par les terroristes et affaiblies par des sanctions internationales. Marseille peut continuer à rêver du podium en Ligue 1 de football. Victoire sur Guingamp 3-1. En début de soirée, l'OM 4e à 5 points de Lyon. Et puis 3 matchs viennent de commencer. Nîmes, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier et Nice, Caen.
France Info. France Info, les informés. Noé Da Silva.
Merci d'écouter et de regarder les informés avec donc cette mobilisation des Gilets jaunes encore aujourd'hui, mobilisation en baisse en nombre de manifestants au niveau national, mais 9000 personnes à Paris, comme vient de nous le dire Jules Dekis, et 60 000 membres des forces de l'ordre mobilisés, et quand même des heurts plutôt légers, mais quand même de la casse dans la capitale. Nora Hammadi, est-ce que c'est impossible d'arriver à tout maîtriser?
Bien sûr que non, on peut pas tout maîtriser. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, on évoquait le 1er mai, donc à la fois l'année dernière avec Alexandre Benalla. On avait eu également un 1er mai sous Bernard Cazeneuve qui avait été extrêmement difficile, je le rappelais tout à l'heure, avec des heurts autour d'Austerlitz et sur le pont qui allait vers la gare de Lyon, où on a failli en fait à un moment se dire que des gens allaient basculer en fait à la Seine. Bien sûr que non, vous pouvez pas tout maîtriser. Sauf que là, il y a, je pense, à mon sens, une forme de stratégie de pourrissement qui fait que on a conserver en fait les symboles que sont l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, aujourd'hui Notre-Dame avec un secteur donc qui est et de l'autre côté en fait à République, du coup bah vous laissez la possibilité en fait à ces gens-là de venir casser tout ce qu'ils veulent et ça fait plusieurs semaines aujourd'hui que ça dure.
C'était quand même plus faible aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire quand même bravo la police ce soir, Yasmina Jaffar?
Bon, en tout cas, c'est vrai que il y a aussi la loi qui est en vigueur maintenant,
anti-casseur,
qui a permis des interpellations et des mises en garde à vue très rapides. Donc oui, bravo de toute évidence, parce que elle est encore une fois, et on le répète, fatiguée. Elle est là la semaine, elle est là le week-end. On a eu un lundi très compliqué aussi avec l'incendie de Notre-Dame, et il y a aussi, on en reparlera certainement, des gilets jaunes qui, par rapport au tweet dont vous allez parler tout à l'heure, qui leur proposaient de se suicider. Donc c'est très difficile.
Alors effectivement, dans la manifestation, voilà, on peut en parler maintenant. Oui. Hein, on a entendu « suicidez-vous, voilà, suicidez-vous » à l'adresse des forces de l'ordre, avec le ministre de l'Intérieur, évidemment, qui dit « honte à vous ». Il a réagi, vous le voyez actuellement, « honte à ceux qui se sont livrés à une telle ignominie. Soutien total à nos forces mobilisées et à leurs familles. L'immense majorité des Français sait ce qu'elle leur doit. »
Bien sûr. Soutien total. C'est très compliqué depuis maintenant 23 semaines. C'est compliqué pour tout le monde, les usagers des transports en commun, la police, tout le monde. C'est pour venir ici aujourd'hui, j'ai juste mis 2h30. Donc c'est fatigant. Et nous ne sommes pas policiers et nous ne vivons pas la pression des policiers. Et nous en avons déjà presque marre. Donc je les soutiens totalement aussi. Et cette phrase est insupportable. Elle n'est pas du tout là pour expliquer que tous les gilets jaunes pensaient que ce sont peut-être des gilets jaunes qui le disent. Bien sûr que non, c'est des provocations totales. Mais c'est à condamner et c'est une honte, très clair.
Mais au-delà de la condamnation, pardon, hein, je m'immisce là, moi, ce qui me pose problème, c'est aussi que comment est-ce qu'un gouvernement, alors Castaner, toutes les semaines, on a des tweets, on a des photos en fait mises en scène, on a une scénographie de l'État, en fait, du gouvernement en action. Pardon, on en est à 23 semaines avec des policiers qui sont épuisés, qui n'ont plus les moyens. Il y a en fait une forme d'irresponsabilité à laisser aujourd'hui traîner cette crise.
Irresponsabilité de la part du gouvernement,
de la part du gouvernement, d'Emmanuel Macron.
Mais est-ce qu'il a vraiment laissé traîner, puisqu'il a lancé un débat, il fallait bien que le débat
Le débat, il a fait le choix, il devait se terminer mi-mars. Oui. On est aujourd'hui quasi fin mai.
Benjamin Morel.
Enfin, mi-mai.
Oui, je suis d'accord, si vous voulez, sur l'idée que, au bout du compte, ce grand débat qui a duré, si vous voulez, si c'était une opération de communication, elle a été beaucoup trop longue et elle a fait durer le mouvement. Si jamais c'était un vrai grand débat avec des vraies idées qui s'échangent, à ce moment-là, techniquement, elle est beaucoup trop courte, parce que pour les restitutions, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Mais du coup, on se retrouve dans une situation d'absence de dialogue et, d'une certaine façon, pour le gouvernement, à la sortie de ce grand débat avec des mesures qui ne satisferont pas la base des gilets jaunes et qui ne satisferont sûrement pas ceux qui manifestent.
Vous en êtes sûr?
Les gens qui manifestent aujourd'hui ne peuvent pas être satisfaits par des annonces. Ils réclament la fin de la Ve République, ils réclament la démission d'Emmanuel Macron. Alors peut-être va-t-il l'annoncer jeudi, j'en doute un petit peu. Donc si jamais il l'a... Je crois pas, non. Mais si vous voulez, il y a très peu de chances en effet que ce mouvement s'arrête. Parce que pour que ce mouvement s'arrête, eh bien il faudrait qu'il y ait une organisation qui dise bon... La démission d'Emmanuel Macron, la dissolution de l'Assemblée, ce sont des revendications que nous gardons, mais nous avons obtenu satisfaction sur un certain nombre de dossiers, donc nous nous arrêtons ou nous changeons de méthode. Comme il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas cette transformation qui est possible. Donc on aura toujours des manifestants et on aura toujours un gouvernement en face qui est peiné pour essayer de répondre à ça et qui en effet rentre dans une stratégie un peu monofocale qui est la stratégie de... Je maintiens l'ordre public.
Donc tout repose sur la police, Étienne Gérard.
Tout repose sur Christophe Castaner.
Oui, sur Christophe Castaner.
Les policiers subissent de plein fouet la situation actuelle. C'est les représentants de l'État qui sont au contact de la population. Et dans la situation, ils sont les dommages collatéraux absolus de tout ce qui se passe. C'est vrai que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'exprimait sur le sujet des suicides policiers, qui avait l'air sincèrement ému et touché par ce sujet-là, il serait bien inspiré de mettre en place des politiques publiques qui permettent aux policiers d'affronter cette situation dans de meilleures conditions.
On en est à l'acte 23 aujourd'hui, s'il faut compter comme ça. Les policiers tiennent le coup. Ils ont eu le choix de la loi anti-casseurs. Mais on dit quand même bravo à la police aujourd'hui.
Oui. Mais là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire bravo à la police. Oui. Là, mais on a bien vu en fait qu'on arrivait au bout d'un processus quand il a fallu faire appel en fait à l'armée pour venir prendre
soulager les
en fait certaines missions pour dégager en fait des forces de l'ordre pour affronter en fait ces actes après ces actes après ces actes. Donc jusqu'où imaginons qu'en fait et vous le disiez à l'instant que les réponses en fait que Emmanuel Macron va apporter en grand débat ne suffisent pas. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre prochain? Est-ce qu'on va continuer à avoir toutes les semaines en fait ce... Là, voilà,
on entend beaucoup les élus aujourd'hui dans beaucoup de villes qui se plaignent effectivement de ces manifestations à répétition. Quand le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, demande des mesures supplémentaires, il n'en peut plus de voir encore quelques casseurs aujourd'hui du côté de la place de la Bastille et également de la place de la République. Est-ce qu'il est dans la posture ou est-ce qu'il faut qu'il soit, en tant que premier adjoint à la ville de Paris, force de proposition, Yasmina Jaffar?
Non, il peut, je pense, dire très clairement ce qu'il ressent par rapport à sa ville, par rapport à des endroits qui sont normalement quadrillés et les casseurs ou des militants d'extrême gauche très très énervés arrivent à s'immiscer quoi qu'il arrive. Je pense que là, l'essentiel, c'est de prendre position pour pouvoir sortir de la crise. L'idée, ça n'est pas pour eux, pour les certains gilets jaunes très très radicalisés, de sortir de la crise. Quand on entend justement ce matin Emmanuel Grégoire qui disait « Je ne soutiens pas, je condamne les violences, mais je comprends parce que c'est comme ça qu'on soit entendu. » Après 23 semaines, c'est des provocations intenables et auxquelles il faut répondre d'une manière ou d'une autre.
Étienne Girard, est-ce qu'on peut comprendre encore au 23e acte la mobilisation des Gilets jaunes ?
Oui, on peut la comprendre. On ne peut pas reprocher à des personnes d'avoir des idées politiques et de les défendre. Maintenant, se pose la question de comment conclure ce mouvement social. Ce mouvement social, les Gilets jaunes, il est totalement inédit par sa constitution, parce qu'il n'y a pas de leader affirmé, mais aussi par sa durée. D'autres mouvements sociaux originaux à l'étranger ont existé. Il y a Occupy Wall Street il y a quelques années aux États-Unis, ou les Indignados en Espagne. Ça avait duré 3 mois. Et là, on en est à déjà 5 mois. Donc, on est dans quelque chose de totalement inédit. Et le fait qu'il n'y ait pas de tête, de leader affirmé dans ce mouvement, mais ça empêche un peu de le clore et d'expliquer que ce mouvement va se transformer.
Alors, on va y revenir justement, puisque ce mouvement aujourd'hui des Gilets jaunes, il est entre deux, puisque les annonces d'Emmanuel Macron devaient avoir lieu la semaine dernière. Finalement, c'est repoussé. Ce sera jeudi prochain, on le sait, avec une conférence de presse. Mais auparavant, il est 20h20. Sur France Info. L'info avec vous, Jules Dequisse.
Ciel pollué au nord-ouest de la France, le Calvados, le Nord et le Pas-de-Calais sont en alerte à la pollution aux particules fines. Le sport est déconseillé et la vitesse sur les routes est abaissée de 20 km/h par les préfectures tout le week-end. Des charges de forces de l'ordre et des lacrymogènes en réponse à des jets de projectiles et des vitrines attaquées par les casseurs. La manifestation parisienne des Gilets jaunes a été émaillée de quelques heures. Aujourd'hui, malgré un dispositif policier très important, la mobilisation est en légère baisse en France, mais avec beaucoup plus de monde que la semaine dernière à Paris, d'après le ministère de l'Intérieur. 20 millions d'euros récoltés en 5 jours. 200 000 Français ont fait un don à la Fondation du Patrimoine pour reconstruire Notre-Dame. Un don moyen d'une centaine d'euros. Par ailleurs, le ministre de la Culture annonce aujourd'hui un nouvel audit sur la sécurité incendie des cathédrales de tout le pays. L'issue du vote ne fait guère de doute. Le oui devrait l'emporter dans le référendum du jour en Égypte. Le président Sisi soumet sa réforme inconstitutionnelle. Elle devrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Un processus autoritaire, dénoncent les ONG. Tout se jouera demain pour l'équipe de France de tennis en demi-finale de Fed Cup. Après les 2 matchs d'aujourd'hui, il y a un partout face à la Roumanie. Victoire de Caroline Garcia et défaite de Kristina Mladenovic qui affrontait la numéro 2 mondiale, Simona Halep.
France Info. France Info. Les informés. Noé Da Silva.
Merci d'écouter les informés sur France Info avec Nora Amadi, journaliste et présentatrice de l'émission Vox Pop sur Arte, spécialiste entre autres des questions européennes. Yasmina Jaffar, journaliste et fondatrice du site laruchemedia.com. Étienne Girard, journaliste politique à Marianne. Et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'ENS, chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Alors justement, le président de la République, Benjamin Morel, va prendre la parole jeudi. Est-ce que cette présence aujourd'hui celui des gilets jaunes dans la rue, ça peut avoir encore une influence sur ce que va dire le chef de l'État jeudi. En disant, bah, finalement, ils sont encore là, ils sont encore dans la rue.
Oui, mais on s'y attendait, si vous voulez. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron avait pris en compte le facteur gilet jaune dans son intervention. Les problèmes pour Emmanuel Macron sont...
Oui, mais est-ce qu'il peut prendre en compte le fait que la mobilisation au niveau national est plus faible? Est-ce que ça peut changer?
Ça peut changer à la marge, mais je pense pas que ce soit son principal problème. Son principal problème, c'est que pour sortir du grand débat et pour sortir de la crise des gilets jaunes, il a besoin d'un événement politique. Un événement politique, c'est quoi? C'est la conjonction entre, d'un côté, eh bien, un moment qui apparaît comme un moment de rupture, donc une forme de l'annonce, et des annonces suffisantes pour avoir une portée dans la société. Ces annonces, elles ont déjà filtré, et elles ont filtré sans l'emballage. Donc aujourd'hui, ces annonces, elles sont un peu démonétisées dans l'opinion.
Est-ce que ce n'était pas un test aussi? Ça permet de tester.
Ça permet de tester, mais c'est ce que j'allais vous dire. Si vous voulez, pour lui, jeudi prochain, il faut arriver à créer un événement. Cet événement, il aurait pu exister lundi. Jeudi, ça va être difficile de le faire exister. Donc pour lui, il faut arriver à trouver des annonces qui marquent les esprits, qui marquent une rupture. Et en même temps, eh ben, il ne faut pas non plus tout à fait jurer avec ce qui devait être annoncé, parce que le discours in extenso circule. Donc on sait à peu près ce qu'il voulait annoncer. Et si jamais il part sur un tout autre pied, on lui dira « mais vous vous déjugez, vos arbitrages étaient mauvais. Une semaine avant, vous nous auriez donc annoncé de mauvaises mesures. » Donc pour Emmanuel Macron, il s'agit à présent de marcher sur un fil. Et ce fil-là, eh bien, il est difficile parce qu'il peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et du coup, eh bien, ne pas mettre fin à cette séquence qui est très mauvaise pour lui. Il y a un sondage Opinionway qui est paru aujourd'hui qui montre qu'en effet Emmanuel Macron chute de 5 points. Donc on voit qu'actuellement cette période ne lui profite pas.
Il chute de 5 points. 27% des Français sont satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron. Donc c'est un sondage Opinionway. Un chiffre est effectivement en baisse de 5%. Est-ce qu'il va remonter dans les sondages, Nora Hammadi, après l'intervention de jeudi soir?
Alors je ne suis pas Madame Irma. Tout ce qu'on sait c'est qu'en général... mais je parle sous le contrôle de mon voisin. Quand on tombe, on peut remonter de quelques points et on l'a vu, hein, ça lui est déjà arrivé. Mais on revient aujourd'hui en fait à des niveaux qui étaient quand même pas encore ceux complètement de François Hollande, mais on se rend compte que c'est quand même pas terrible. Moi, je voudrais quand même revenir sur une chose qui est que en plus la séquence. Peut-être que ce qui peut le faire remonter un peu, ce serait éventuellement les européennes qui, du coup aussi, avec ce grand débat qui s'éternise et ces gilets jaunes et ces actes...
C'est quand les européennes?
Ben c'est le 26 mai, et donc
ah
c'est
bon,
demain.
Mais on en parle pas.
Mais non, connaît, et c'est bien le problème. Et c'est qu'en fait, aujourd'hui, donc on se retrouve en fait avec des partis qui commencent à faire campagne, qui font meeting sur meeting. Nathalie Loiseau a été désignée il y a quelques semaines, je vous le rappelle.
Pour
La République En Marche. Et du coup, on a quand même aussi aujourd'hui un parti qui est La République En Marche, qui fait campagne, mais qui n'a toujours pas de programme. Voilà. C'est-à-dire que ça permet aussi ça. C'est un espèce de moment de flottement absolu où, du coup, les fondamentaux de la politique dans un moment de campagne, bah, finalement, sont totalement secondaires.
Yasmina Jaffa, flottement.
D'autant que je reviens juste sur ce que
Benjamin
vous disiez.
Morel.
Oui, exactement, qui est assez juste par rapport à jeudi. Il y a un véritable enjeu. D'autant que l'exercice va être très compliqué parce que la conférence de presse sera la première de l'histoire du quinquennat d'Emmanuel Macron et qu'on sait qu'il a l'habitude, et il est remonté avec une emphase assez naturelle chez lui quand il a fait les grands débats, parce qu'il parle directement au peuple. Quand il parle directement au peuple, il a cette séduction facile. Quand il fait aussi des grands discours,
oui,
il est aussi
campagne,
éloquent. Oui, peut-être aussi, c'est une opération de séduction et de communication, parce qu'il fallait aussi calmer le jeu. Mais en tout cas, une conférence de presse, parler aux journalistes, ça va être très compliqué de créer le lien direct avec les Français et d'être dans la séduction. Donc c'est un enjeu de forme, mais aussi de fond, parce que les propositions, si elles sont pas à la hauteur, samedi prochain, plus le 1er mai, ça risque d'être très compliqué, et la crise ne s'arrêtera pas avant, en effet, le mois d'août.
Étienne Gérard, journaliste politique, justement, à Marianne, opération de séduction?
Oui, opération plutôt de conviction. C'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron...
De conviction pour lui ou pour nous?
Non, pour l'opinion. J'espère qu'il est convaincu de sa politique. C'est pour ça qu'il a choisi le modèle de la conférence de presse, parce que lui et son entourage sont persuadés qu'il est meilleur dans la confrontation d'idées. Donc dans un débat de type
comme
ping-pong...
Comme lorsque du grand débat, où il a pris la parole parfois pendant plus de 7 heures.
C'est justement toutes ces prises de parole lors du grand débat qui les ont confortés dans l'idée que c'est dans ce type d'interaction-là qu'Emmanuel Macron est le meilleur. Cela dit, il ne se facilite pas forcément la tâche, parce que la contrepartie de ça, c'est qu'il ne s'autorise aucun flou
dans sa prise de parole et dans les mesures qu'il va dérouler. Un exemple, la politique fiscale. Je suis totalement d'accord avec Benjamin, tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a fuité est sanctuarisé, parce que Emmanuel Macron ne peut pas se déjuger. Donc on aura une baisse d'impôts pour les classes moyennes. Reste à dire pour qui et reste à dire comment elles seront financées. La précision devrait être totale.
Les informés continuent. Merci de rester avec nous.
L'adieu à la nuit d'André Téchiné avec Catherine Deneuve, un film France Info. Alex vient rendre visite à sa grand-mère Muriel avant son départ pour le Canada.
Mais je savais pas que...
Je savais pas que quoi ?
Que tu étais croyant.
Maintenant, tu le sais.
Rapidement, elle découvre qu'Alex lui a menti. Il se prépare à une autre vie.
Je veux pas que tu partes.
Muriel, bouleversée, doit réagir vite.
Qu'est-ce que tu vas foutre à Istanbul ? Tu vas passer la frontière ?
Ouvre.
Non.
L'adieu à la nuit, avec Catherine Deneuve, Cassim Oteklin et Oulaya Amamra. Le 24 avril au cinéma, en partenariat avec France Info. Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info.
France Info Météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Quel temps demain, Jean-Michel Golinski ?
Poursuite de températures remarquables ce week-end de Pâques, souvent plus élevées dans la moitié nord, avec demain 23-26 degrés au nord de la Loire, dans le quart nord-est et en Rhône-Alpes, contre 19 à 22 du sud-ouest au pourtour méditerranéen. Lundi, les valeurs stationnaires dans la partie nord seront en légère hausse au sud, avec toujours pas mal de soleil en vue, et demain, un temps tout bleu du nord-est au nord de la Loire, un ciel voilé de la Bresse à l'est du Rhône. C'est en fait sur un large quart sud-ouest que l'ambiance sera la plus variable, avec possibilité d'averses et d'orages. Lundi, c'est sur le bassin méditerranéen que le risque de pluie sera le plus marqué. Quelques ondées seront également possibles sur la moitié ouest. Et partout ailleurs, poursuite du très beau temps, on remarquera un vent d'OTAN soutenu et à partir de demain, un net renforcement du vent d'Est en Méditerranée.
Merci d'écouter France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Toute l'info avec vous, Guy Regis, bonsoir.
Bonsoir Noé, bonsoir à tous. Le ministre de l'Intérieur dit apporter son soutien total aux forces de l'ordre, alors que des manifestants gilets jaunes ont scandé à l'adresse des policiers place de la République. Suicidez-vous, suicidez-vous. Honte à ceux qui se sont livrés à une telle ignominie, a dénoncé Christophe Castaner sur Twitter, dans un contexte où déjà 28 policiers se sont donné la mort depuis le début de l'année. La 23e mobilisation des Gilets jaunes a rassemblé en France 27 900 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en baisse par rapport au week-end précédent où 31 000 manifestants avaient été comptabilisés. À Bordeaux, pour cette manifestation des Gilets jaunes, l'accès à l'hypercentre a été bloqué par les nombreux barrages des forces de l'ordre. À Bordeaux, Camille Huppenoir.
Plus de 2000 manifestants qui chantent au son d'une fanfare et au milieu d'un boulevard désert, scène surprenante à Bordeaux. Le cortège est passé par des rues que les Gilets jaunes n'avaient jamais empruntées en 23 samedis de manifestation. Un changement dû à la tactique des forces de l'ordre qui ont très fermement bloqué tous les accès vers les rues les plus touristiques. Il faut dire qu'en cette période de vacances et de très beau temps, il y a du monde en ville, surtout en terrasse. Alors les Gilets jaunes ont été refoulés loin, très loin même des axes les plus fréquentés, jusqu'à se retrouver sur les boulevards qui ceinturent Bordeaux. C'est là, vers 16h30, que les gendarmes ont dispersé la manifestation à grand renfort de gaz lacrymogène. Il y a toujours quelques accrochages en centre-ville entre de petits groupes de manifestants et les forces de l'ordre, mais la plupart des gilets jaunes ont décidé de rentrer chez eux ou parfois de s'arrêter pour prendre un verre en terrasse. Ils se donnent déjà rendez-vous samedi prochain, qu'importe les annonces du gouvernement.
Les précisions à Bordeaux de Camille Huppenoir, Angélique Kidjo, Chimène Badi, Benabar, la danseuse Marie-Claude Pietragala ou encore Gauthier Capuçon. Un beau bouquet d'artistes réunis ce soir aux Invalides pour un concert au profit de la reconstruction de Notre-Dame. Ce concert sera diffusé à partir de 21h sur France 2 et animé par Stéphane Bern. Des cerises de plus en plus sûres pourront être dégustées en France pour les beaux jours. Paris interdit à nouveau la commercialisation des cerises fraîches venant de pays où l'utilisation du diméthoate, un pesticide qui sert à combattre le moucheron asiatique, mais qui a des effets toxiques dangereux pour les consommateurs. Au Soudan, où la situation reste tendue et incertaine, les leaders de la contestation qui ont obtenu la tête d'Omar El-Béchir doivent rencontrer les dirigeants militaires ce samedi. Ils réclament depuis le début de la protestation le transfert du pouvoir à une autorité civile. Et puis en tennis, week-end de Fed Cup à Rouen, un partout entre la France et la Roumanie en demi-finale. Caroline Garcia a remporté son match contre Mihaela Bunaseascu. Demain, deux autres simples suivis d'un double en cas d'égalité. Tout de suite, les informés avec Noé Da Silva.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous sur France Info pour les informer. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes avec Nora Amadi, journaliste présentatrice à l'émission Vox Pop sur Arte, Yasmina Jaffar, journaliste et fondatrice du site laruchemedia.com, Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'ENS et chargé d'enseignement à la Sorbonne et Sciences Po Paris. Nouveau thème ce soir dans les informer. Depuis lundi, la mobilisation grandit après l'incendie de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce soir, c'est donc un concert exceptionnel qui se tient aux Invalides. De nombreux musiciens, dont ceux de Radio France, mais aussi Gauthier Capuçon, le violoncelliste, Benabar, Laurent Voulzy, Slimane, Clara Luciani, encore Chimène Badi. Mais un concert, pourquoi faire? Eh bien, déjà 1 million d'euros récoltés. Évidemment, déjà des polémiques sur ces dons privés. Écoutez ce qu'en pense Stéphane Bern. Il est chargé d'une mission sur le patrimoine par le chef de l'État.
Ce sont des personnes privées. Certes, elles font des profits qui peuvent être contestables ou contestés. Mais ce sont des personnes privées. C'est M. Pinault, M. Arnault, qui en plus ne demandent pas de défiscalisation. Vous l'avez suivi. Ensuite, moi, j'ai été en rapport avec les grands donateurs internationaux. Ce sont des grands mécènes internationaux, américains, brésiliens, anglais. Ils n'ont pas demandé un reçu CERFA de défiscalisation. Ils s'en fichent. C'est de la philanthropie pure. Ils sont émus par ce qu'ils voient. Donc, arrêtons d'opposer les causes. J'aimerais qu'on donne 2 milliards pour qu'il n'y ait plus personne qui dorme dans la rue, évidemment. Mais en même temps, c'est une contribution volontaire. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas vous choquer du fait que les gens se sentent que Notre-Dame de Paris est quelque chose qui est de l'âme de la France.
Alors, on ne peut pas se choquer, on ne peut pas être choqué par ces dons, puisque Notre-Dame de Paris, c'est l'âme de la France, Étienne Girard.
Il n'y a pas à être choqué par ces dons. On salue ces dons.
Il n'y a pas à être choqué, mais il y en a qui ont été choqués. Ça ne vous a pas échappé.
Non, c'est pas une question d'être choqué, c'est une question de contextualiser. Et il me semble en effet que c'est intéressant de contextualiser. On peut saluer ces dons, 200 millions d'euros, 100 millions d'euros, et en même temps faire remarquer que ces milliardaires-là ne font pas toujours preuve d'un civisme et d'une citoyenneté et d'un patriotisme à toute épreuve. Bernard Arnault avait demandé il y a quelques années la nationalité belge. François Pinault fait via une de ses sociétés de l'optimisation fiscale qui lui rapporte des milliards. Donc, si on fait, si vous voulez, la balance en termes de ce que leur rapporte, ce qu'ils ne donnent pas à l'État dans d'autres circonstances, on peut considérer que ces dons-là ne sont pas si importants que cela, ce qui ne retire rien au fait qu'on peut saluer ces gestes-là.
Benjamin Morel.
Oui, je suis d'accord, mais il faut tout de même dire que, prenons l'église de Saint-Germain, qui vient juste d'être restaurée. 85% de cette restauration a été financée par des dons privés. Seuls 15% a été financé par la mairie de Paris. Quand bien même ces fortunes-là paieraient leurs impôts si elles ne les payent pas, je ne suis pas sûr que l'État entretiendrait son patrimoine. Le budget des monuments historiques, c'est 300 millions d'euros par an. On sait que pour vraiment entretenir nos monuments, il faudrait 2 milliards d'euros. Alors, c'est important, c'est notre âme, c'est notre identité, c'est également un instrument de développement économique, parce que si on est la première destination touristique au monde, c'est pas parce qu'on est sympathique et c'est pas parce que les étrangers nous aiment bien. C'est pour Notre-Dame, c'est pour notre patrimoine et on ne l'entretient pas, on ne s'en occupe pas.
Le plus visité.
Exactement. Non. Donc il est nécessaire aujourd'hui que, à défaut d'avoir un État qui remplisse ses obligations en la matière, on est au moins des dons, on est au moins une participation du privé.
Nora Amadi, vous êtes d'accord ?
Oui, je vais abonder et je vais continuer. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est que là, en fait, avec l'émotion, et c'est bien normal, on a aujourd'hui toute une classe très aisée qui, effectivement, nous a plutôt habitués à être à la tête de nos journaux, à faire les gros titres par souci d'évasion fiscale. Mais là, pour le coup, il faut le saluer. En revanche, ça dit quelque chose, en fait, de notre rapport au patrimoine, à nos communs, et il y a la manière en fait dont on a abandonné ces questions. On sait à quel point, et ça les collectivités territoriales en fait tirent la sonnette d'alarme depuis des années, l'État est propriétaire d'une partie du patrimoine, les collectivités aussi, et l'assèchement en fait des deniers publics conduit à ça. Et Notre-Dame en est malheureusement aujourd'hui l'exemple le plus dramatique, mais c'est le cas en fait dans toutes les villes de France, dans tous les petits villages, et tout ceci en fait conduit à se dire, et ça a été effectivement perçu, pourquoi aujourd'hui ces dépenses de maintien du patrimoine ne seraient pas exfiltrées au même titre que des dépenses d'investissement dans l'éducation nationale dans le calcul en fait de nos dettes publiques. Pourquoi ne pas sortir ce qui est du domaine de l'investissement nécessaire? Je rappelle que la culture...
Mais pourquoi ça plutôt qu'autre chose?
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est un débat en fait à avoir. Qu'est-ce qui fait? Et c'est, je vous dis ça, on pose le débat. Hein, c'est qu'est-ce qui rentre dans le calcul en fait de nos déficits? Pourquoi aujourd'hui en fait l'investissement dans la réhabilitation de notre patrimoine ne pourrait-il pas en fait être exfiltré de ces calculs et faire en sorte que les collectivités, l'État puisse prendre en charge ce qui est nécessaire? On vient, enfin vous venez de dire le chiffre de 2 milliards quand on sait que le budget de la culture est de 3% en fait du PIB. Et qu'au sein de ce budget, c'est 2,1% pour la rénovation. On est dans pas grand-chose.
Yasmina Jaffa.
Stéphane Bern avait donc expliqué, plutôt énervé, amitié ou pas avec le président de la République, il avait bien indiqué qu'on avait un problème avec notre gestion du patrimoine et la façon de préserver notre patrimoine. Le mécénat existe depuis longtemps, donc... Pourquoi pas dans ce fait-là? C'est une semaine sainte, c'est une cathédrale qui est touchée. On peut comprendre l'émotion totale à écho international. Donc il n'y a en effet pas à être choqué du tout. Pour être sur l'idée de la soirée de ce soir, parce que
oui,
c'était votre question. Voilà, le service public, la télévision et la radio doit évidemment se créer des causes, des actes comme cela, parce que ça fait partie de la mission du service public de l'audiovisuel. Et donc une soirée où je vois sur scène Slimane, mais aussi Lang-Lang, le pianiste, moi ça me ravit de toute manière. Dès qu'on parle culture et quand il s'agit d'agir comme ça et de faire une belle soirée assez rapidement, parce qu'en termes de production, c'est produit d'une rapidité fondamentale. Je suis spécialiste de médias, donc c'est pour ça que je fais un petit laïus là-dessus. Et on a en face The Voice avec les chaos de Soprano, donc c'est pas non plus simple, mais au-delà de l'audience, là on n'est pas sur des histoires d'audience, c'est je tiens mon chapeau réellement à la production et à France Télévisions d'avoir réagi aussi vite.
On va y revenir évidemment sur ce concert de ce soir sur France Info. Mais tout de suite, il est 20h40, il est grand, il est à côté de moi, c'est Jules de Kiss pour l'info.
Le ministre de l'Intérieur affiche son soutien aux forces de l'ordre et dénonce une ignominie. Quelques manifestants ont lancé « Suicidez-vous » à des policiers, place de la République à Paris. Des provocations pendant la manifestation des Gilets jaunes, alors que le nombre de suicides dans la police est en forte hausse depuis le début de l'année. Pour ce qui est de la mobilisation dans les cortèges, elle est en légère baisse par rapport à la semaine dernière. Un peu moins de 28 000 Gilets jaunes dans la rue, près d'un tiers rassemblés à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Un homme de 52 ans retrouvé mort dans une coulée de neige en Haute-Savoie. Il était parti faire une randonnée à ski. Son corps a été retrouvé par les secours près de Samoëns, à côté de Morzine. Une sénatrice de Marseille qui porte plainte contre un sénateur de Marseille. Samia Ghali va attaquer Stéphane Ravier en justice pour injure sexiste. L'élu du Rassemblement National a parlé de sa collègue socialiste comme étant le point G de la cité phocéenne, propos tenu lors d'une réunion publique avant-hier. Le chef de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, condamne fermement l'attaque de ce matin au centre du pays. Un casque bleu est mort et 4 autres ont été blessés dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi. Mon plus mauvais match sur terre battue en 14 ans. Le tennisman Rafael Nadal est dépité. Il s'incline en 2-7, 6-4, 6-2 contre Fabio Fognini. Il ne jouera donc pas la finale du tournoi de Monte Carlo, qu'il a déjà remporté 11 fois. L'Italien jouera le titre demain contre le Serbe Dusan Lajovic.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous. Les informés continuent autour de la table. Nora Hammadi, Yasmina Jaffar, Benjamin Morel et Étienne Girard. Étienne Girard, un concert ce soir alors pour récolter des dons, alors qu'il y a déjà pratiquement dans les caisses 1 milliard d'euros.
Vous connaissez l'adage, la musique adoucit les mœurs. Donc, c'est toujours sympathique d'écouter de belles chansons. Ça permet d'exorciser en quelque sorte notre émoi après l'incendie du début de semaine. Et sur la question des dons, abondance de biens ne nuit pas. Mais puisque vous me tendez la perche, donc je vais quand même faire le grincheux de service une seconde. Ce serait bien qu'il y ait des afflux de dons massifs également sur d'autres thèmes, d'autres sujets, aussi peut-être des concerts, événements sur d'autres sujets, à commencer par, pourquoi pas, le mal logement et le nombre de SDF qu'on a aujourd'hui dans la rue. Je rappelle que c'était une des promesses du président de la République, aucun SDF dans la rue.
Alors pourquoi ces dons n'affluent pas pour ces autres causes?
On a été saisis par l'émotion, là, vraiment.
Oui, parce que là, c'est l'émotion qui joue. En fait, ce qui est terrible, et je salue la Croix qui, cette semaine, en fait, a fait un édito absolument incroyable, un papier incroyable autour de « Il n'y a pas que Notre-Dame qui ait besoin d'un toit ». Et la formule est, je trouve, très belle. C'est-à-dire que cette émotion-là, finalement, on l'a pour les vieilles pierres, mais on ne serait plus en capacité, en fait, de voir...
On en revient à ce qu'on disait au début. Il ne faut pas opposer les dons, c'est ce que disait... Stéphane Bern.
Oui, bien sûr qu'il ne faut pas poser les dons, mais
on
après
peut pas
dans l'autre
aux
sens,
gens de vouloir donner
sûr,
pour Notre-Dame.
Bien sûr, mais on se rend bien compte que du coup Notre-Dame, et ça c'était un papier aujourd'hui, dépasse en termes de dons tout ce qui peut être donné, c'est-à-dire plus de 2 milliards d'euros par an à toutes les ONG, à toutes les œuvres confondues en fait. On n'a jamais vu ça. Donc après, tant mieux pour Notre-Dame. Il faudrait pas non plus tomber dans la kermesse ou un téléthon en fait du patrimoine. Et malheureusement, on l'a bien vu avec Stéphane Bern et sa loterie, on en est arrivé là. Et
lui, il doit ramasser 20 millions d'euros avec son loto pour le patrimoine.
Mm-hmm. Mais vous voyez où on est.
20 millions d'euros d'un côté, un milliard
de l'autre.
Benjamin Morel.
Mais ça, c'est un vrai problème, si vous voulez. Et il ne faut pas qu'on affecte uniquement ces dons à Notre-Dame si on a un trop-plein.
Aujourd'hui, on n'a pas le droit.
On n'a pas le droit. Et c'est un problème parce que ça a été construit comme ça. Mmh. Mais fondamentalement, il y avait d'autres choix. Et on aurait pu affecter une partie de ces autres dons au patrimoine. Ensuite, il ne faut pas trahir ces dons sur un autre aspect. On a eu un président de la République qui nous a tout de suite expliqué qu'on allait tout rebâtir en 5 ans et qu'on allait faire un concours d'architecture sur la Flèche. Si jamais on construit à la place de la Flèche originelle, une tour de verre, eh bien, on aura quand même trahi un peu la philosophie de ces dons. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et ça trahirait fondamentalement, eh bien, tout cet élan autour d'un symbole qui a été un symbole d'unité
commune.
Pourquoi ça
trahirait
les Notre-Dame? Parce que quand ces
dons... Vous pensez que les gens qui donnent pour Notre-Dame veulent revoir Notre-Dame telle qu'elle était?
On a eu une sorte d'identification à cette cathédrale qui brûlait et une sorte de sentiment, justement, d'appartenance commune devant cette cathédrale qui brûlait. Si jamais cette cathédrale qui brûle devient devient l'instrument du choix d'un homme ou d'un gouvernement, c'est un problème. À la rigueur qu'on fasse une tour de verre à la place, pourquoi pas, à condition que ce ne soit pas le président de la République qui le choisisse, à condition que ce ne soit pas le ministre de la Culture qui choisisse, à condition que ce soit le peuple français, parce que ce bien-là, c'est le bien du peuple français.
Yasmina Jaffar, vous êtes d'accord?
Je ne veux pas dire d'erreur, mais je pense qu'il y a un cahier des charges de toute façon. Les architectes du monde entier, parce que c'est un concours international, ne pourront pas faire ce qu'ils veulent, je ne pense pas. Parce que c'est un patrimoine préservé et donc
Au bout du compte, c'est le ministre de la Culture.
Oui, qui a été classé avec sa flèche.
Donc je ne pense pas qu'on pourra faire des concours un peu comme ce qui s'était passé à la place des Tours. On a vu des choses complètement dingues qui nous rappelaient Dubaï. Donc là, je pense qu'on va s'épargner ça, heureusement. Mais c'est vrai que les 5 ans, c'est pareil. C'est une façon de jouer sur l'émotion, de réagir très vite et d'être un petit peu aussi dans cette idée que Paris est une vitrine importante et qu'en dans 5 ans, il y a un événement important, des Jeux qui arrivent. Et donc, il y a une volonté là. On est plus dans la politique, dans cette réaction-là, pour arriver à terme. Mais prenons le temps, au contraire, de reconstruire cette cathédrale parce que le temps a aussi beaucoup de qualité.
Alors, Yasmina Jaffar et tous les autres ici autour de la table, on va changer de thème et on va parler de la sécurité routière dans un instant. Mais tout ce que l'on vient de dire là sur Notre-Dame de Paris, sur la polémique autour des dons, la polémique autour des projets futurs de l'architecture, est-ce que vous n'avez pas l'impression, et là je vais faire mon mon vieux réac de service. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on est tout de suite critiqué. Nora Amadi.
Mais non, mais en fait, à un moment, on peut, franchement, on est les spécialistes en France du débat. La planète entière, tout le monde a fait une, quels que soient les pays sur cette question. Mmh. C'est bien logique, en fait, qu'on se pose aujourd'hui la question de la récupération politique et de la posture du président.
Et toutes les critiques sont les bienvenues.
Mais c'est pas grave. C'est pas juste de la critique, c'est du débat. Et en fait, il en sortira quelque chose, mais c'est important que tout le monde s'empare aussi de cette question.
Benjamin Morel.
On a eu deux phases dans cette affaire. On a eu la phase de l'incendie avec un Emmanuel Macron qui arrivait devant nous et faisait un discours qui était un discours fondamentalement émouvant et un beau discours. Et ensuite, on a eu ce discours, cette allocution du lendemain, avec ensuite, donc avec ces 5 ans, et avec ensuite ce projet futuriste. Et là, on a la rupture d'unité, parce qu'on soit d'accord ou pas avec ces 5 ans, avec ce projet de flèche nouvelle, eh bien, ça crée une rupture parce que justement, eh bien, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Le politique, dans ces affaires-là, ne doit pas s'en mêler. Il aurait dû dire, je laisse faire les architectes des bâtiments de France, je laisse faire les monuments historiques, et in fine, peut-être, le peuple aura le droit de choisir.
Et mon petit doigt me dit qu'on y reviendra dans un débat prochain des informés. Nouveau thème des informés ce soir, la sécurité routière. Alors, soyez prudents si vous êtes en week-end, vous êtes nombreux sur la route en ce week-end de Pâques. Les chiffres de la mortalité au mois de mars sont mauvais, hein. Mortalité en hausse pour le 3e mois consécutif. Le gouvernement a déjà prévenu, les gilets jaunes qui ont cassé les radars sont en partie responsables. Écoutez la réaction de Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes.
Quoi qu'il arrive, on va trouver un moyen de justifier la présence des radars en France. Quand les accidents baissent, c'est grâce aux 80. Quand les accidents montent, c'est parce que des dégradations de radars ont eu lieu. Bref, la réalité gouvernementale, c'est toujours de justifier les mesures mises en place.
Alors il y a toujours un coupable et ce n'est jamais le gouvernement. Étienne Gérard, journaliste politique à Marianne.
En l'occurrence, cette hausse de la mortalité, elle n'est pas due au radar. Et ça, on le sait, parce que quand on se plonge dans les chiffres, elle se fixe où, cette hausse de la mortalité? Sur les piétons, sur les vélos et sur les cyclomoteurs.
Donc les usagers vulnérables.
Donc elle a lieu en milieu urbain, là où il y a moins de radars. Donc pour le coup, c'est le mauvais argument d'expliquer que ce sont en majorité les destructions de radars qui expliquent ces mauvais chiffres. Cela dit, c'est pas bien de casser des radars et ça n'aide pas la sécurité routière. Mais en l'espèce, c'était pas le bon argument.
Yasmina Jaffar.
Je pense à Édouard Philippe et à la phrase qu'il a annoncée il y a quelques semaines quand il a dit « on m'a accusé de vouloir remplir les caisses alors que je voulais sauver des vies ». Quand je vois ce chiffre, ça me rappelle à quel point il avait envie d'imprégner ce quinquennat pour exister, et quand ça se traduit par 8% de plus de cyclistes morts cette année, je trouve ça absolument dramatique. Voilà, donc c'est de toute façon dramatique. Et ça devient presque une fatalité, quelque
Benjamin
chose
Morel.
Qu'on prend avec légèreté.
Si vous voulez, est-ce que les radars ça marche? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il faut attendre un peu pour voir ce que ça donne. On a en effet une période particulière, il ne faut pas oublier non plus la météo dans les facteurs qui entraînent plus ou moins de mortalité. Si on avait vraiment voulu tester ça, on aurait mis des départements à 80, des départements pas à 80. À ce stade-là, au vu de l'avancée de ces mesures, c'est trop tôt pour juger, c'est trop peu pour dire, et chacun est dans son rôle politique en disant que ça a marché ou que ça n'a pas marché.
On parle de la sécurité routière en ce week-end, Pascal, sur France Info. Mais tout de suite, il est 20h50, Jules Dekis.
Des musiciens classiques parmi les plus réputés du monde, des artistes de variété populaire comme Laurent Voulzy, Benabar ou Clara Luciani, et les orchestres et le chœur de Radio France. Grand concert d'hommage à Notre-Dame de Paris ce soir. Il sera diffusé en direct sur France 2 depuis la cour des Invalides. Les 20 000 contrôles préventifs, les 60 000 policiers et gendarmes mobilisés n'auront pas empêché les actes de vandalisme et les heurts avec les forces de l'ordre. Nouveau samedi, deux manifestations des Gilets jaunes. Participation en légère baisse, 27 900 personnes mobilisées en France, dont un tiers à Paris selon le ministère de l'Intérieur. Abdel Fattah al-Sissi a été l'un des tout premiers à voter tout à l'heure. Référendum en Égypte sur la réforme constitutionnelle. La victoire du oui ne fait guère de doute. Le président autoritaire pourrait alors gouverner jusqu'en 2030. Une nouvelle attaque terroriste à Kaboul en Afghanistan. Un commando armé a fait 7 morts dans le ministère des Communications. Un attentat qui vient rompre un climat d'accalmie depuis plusieurs mois. C'est la mi-temps dans les matchs du soir en Ligue 1 de football. Un partout entre Nîmes et Bordeaux. 2-1 pour Montpellier contre Strasbourg. Et 0-0 entre Nice et Caen. Un peu plus tôt, Marseille est allé gagner 3-1 à Guingamp. Et puis en rugby, peut-être une finale franco-française en challenge européen, la petite Coupe d'Europe. La Rochelle vient de valider son ticket en s'imposant sur les Anglais de Sale 24-20. Et dans 10 minutes, Clermont reçoit les Londoniens des Harlequins.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Et autour de la table, Nora Hammadi, journaliste présentatrice de l'émission Vox Pop sur Arte, Yasmina Jaffar, fondatrice du site laruchemedia.com, Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, et Benjamin Morel, chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. On évoque la sécurité routière en ce week-end pascal avec les très mauvais chiffres de la mortalité sur les routes. Et vous l'avez dit, Étienne Girard, les victimes sont en premier lieu des usagers vulnérables, donc les piétons, les cyclistes, les usagers de deux roues motorisées. On fait quoi, justement? Est-ce qu'il ne faut pas, dans l'apprentissage de la conduite, prendre en compte tout ce qui est partage de la route aujourd'hui? C'est-à-dire que quand on est au volant de sa voiture, on n'est pas le roi de la route.
Alors, Nora Hammadi, je vais prendre ma casquette de journaliste européenne. À un moment, on peut essayer de faire autant de travail d'éducation possible autour de cette question. C'est à la force publique d'organiser, en fait, les mobilités. Quand vous êtes dans une zone comme Paris ou Marseille, qui est une ville que je connais bien, en fait, il n'y a pas de possibilité d'avoir à la fois des autoroutes à vélo, comme on peut le voir, par exemple, dans le nord de l'Europe, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit au Danemark, que ce soit en Suède ou même en Allemagne. Vous avez des autoroutes, en fait, à vélo qui font que vous ne croisez que rarement, en fait, une voiture. Donc, l'accidentologie, de fait, elle est réduite. Quand vous avez aujourd'hui tous les gens qu'on voit, par exemple, sur des... comment ça s'appelle? Les trottinettes qui sont un danger monumental, ou les Segway, ou tous ces trucs qui nous permettent d'aller quand même à 20-25 km/h sans casque. À un moment,
parfois à deux.
Vous les voyez sur les trottoirs, vous les voyez... Donc, en fait, si vous n'organisez pas ces mobilités, de facto, l'accidentologie explose. Et en fait, on peut faire toute l'éducation qu'on veut. Soit vous mettez en fait un policier derrière chaque personne, derrière chaque usager, soit vous faites en sorte que les gens se croisent le moins possible.
C'est aux autorités, la police, le gouvernement, d'organiser les mairies.
Oui, c'est aux autorités, si vous voulez.
J'ai l'impression que c'est déjà le cas. Il y a des pistes cyclables.
Il y a des pistes cyclables, mais il y en a relativement peu. Et puis, il y a également une responsabilité individuelle à avoir. C'est-à-dire, je ne suis pas automobiliste, donc je dis ça d'autant plus volontiers. Mais objectivement, en effet, ces trottinettes, etc., etc., vous avez un risque qui est inhérent à ce type de mobilité, à ce type d'usage également de ces instruments, mais dont on prend aujourd'hui assez peu conscience. On voit que la réglementation en l'affaire est extrêmement récente et que, on a toujours des comportements qui sont des comportements à risque pour les automobilistes et pour ceux qui usent de ces instruments-là.
Étienne Girard, est-ce qu'il ne faut pas enseigner le partage de la route et la prise de conscience des autres, plus faibles, plus vulnérables, comme on le dit?
Oui, c'est une question de civisme, en effet. Et ce type d'apprentissage paraît indispensable. Mais ce qui est très difficile en termes de politique routière, c'est l'ingratitude de l'opinion. Si vous voulez, Édouard Philippe, il fait les 80 km/h maximum, ce qui permet de sauver des vies ou de contenir la hausse de la mortalité. Il est vilipendé pour ça. Donc on a une totale distorsion entre l'importance du sujet et le ressenti par les Français.
Fin de ce débat sur la sécurité routière, mais on vous le rappelle, soyez prudents sur les routes ce week-end. 20h55 sur France Info, c'est samedi, et comme tous les samedis, on termine avec vos coups de cœur. On commence avec vous, Nora Hammadi, quel est-il?
Alors mon coup de cœur, c'est Free Solo, qui est un documentaire qui a eu l'Oscar du documentaire il y a quelques semaines. C'est un documentaire qui revient sur la prouesse d'Alex Honnold, qui est le meilleur grimpeur en solo intégral du monde, qui a réussi l'exploit de monter donc en Free Solo. Ça veut dire qu'il n'est pas assuré, il n'a pas de corde, et il a monté El Capitan, en fait, qui est une paroi de plus d'un kilomètre du parc de Yosemite. Et ceci a été filmé par un...
Et alors ça fait peur?
Ah, c'est monstrueux. Ouais. C'est monstrueux. C'est en ce moment à voir sur la chaîne National Geographic ou en replay. Et c'est à voir parce que au-delà, en fait, de la performance d'Alex Honnold, qui est un peu autiste, il faut bien le dire, c'est aussi une performance de réalisation puisque les réalisateurs Jimmy Chin, en fait, a fait ce film avec des grimpeurs professionnels qui ont porté des caméras tout en montant, en fait, cette paroi.
Free Solo, donc, sur la chaîne National Geographic. Benjamin Morel.
Alors moi, c'est un ouvrage d'un professeur de droit qui s'appelle Paul Cassia et qui en fait est un professeur de droit à Paris 1 où j'enseigne également et qui a choisi en fait de construire un petit peu l'idée d'une république du futur en proposant un certain nombre d'éléments, de réformes. Et cet ouvrage, il est intéressant sous deux aspects. D'abord, dans sa démarche, parce que c'est en effet pour l'université, eh bien, une possibilité de s'adresser au monde. Et par rapport à ses propositions, sur tout un tas d'aspects, collectivité territoriale, réforme de l'ENA...
Là.
Il y a des choses très pertinentes.
On est en plein dedans. Yasmina Jaffar, très rapidement.
On a très peu de temps,
pardon,
donc du coup, je voulais juste l'incipit du livre de Michelle Obama. J'ai passé une grande partie de mon enfance à écouter Le son de l'effort. Voilà, j'étais mardi à Bercy, j'ai eu cette chance. Et en effet, c'est une femme qui ne compte pas son temps et qui est assez redoutable. Et tout
le
est inscrit
livre, donc,
dans
de Michelle
son livre.
Obama.
Voilà, j'avais plein de choses à dire d'autres, mais on n'a pas le temps.
Étienne Girard, désolé, pardon.
Et ben moi c'était une série Vernon Subutex dérivée du best-seller de Virginie Despentes. C'est drôle, piquant,
magnifique.
Des galeries de personnages haut en couleur, génial, regardez-le absolument.
Et c'est sur Canal+. Merci, les informés sont de retour demain sur France Info. L'info continue, restez avec nous.